Le nouveau mois de Marie, 16e jour. Purification de la Très Sainte Vierge. Quel sacrifice s'offrit alors par les mains de Marie? Elle présenta, elle dévoua au Père éternel l'adorable victime, le divin agneau qui devait effacer un jour par sa mort les péchés de tous les hommes. Elle-même, en entendant la prophétie du saint vieillard Siméon, découvrit aussitôt dans l'avenir toutes les douleurs qui feraient de son cœur maternel comme un abîme d'amertume. Elle renouvela aux pieds du Seigneur l'acte de soumission et de résignation qu'elle avait fait lorsqu'elle consentit à être la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. C'est ainsi que par le plus héroïque de tous les sacrifices, elle immola à la fois et son divin fils et son propre cœur. Enfant de Marie, imitez votre mère, qu'un feu sacré s'emparant de votre âme, vous ne respiriez que sacrifice pour votre Dieu. N'ayez point de repos, que tout ce qui est en vous ne lui appartienne sans réserve. Et qu'en Maître absolu, il ne règne sur vos sens, sur votre esprit, sur votre cœur. Mais comment, mon cher Théotime, parvenir jamais à cet heureux état si vous ne délivrez entièrement votre âme du tyran qui l'opprime malgré sa feinte douleur, du monstre qui la déchire, tout en paraissant la flatter en un mot de votre passion dominante. Passion dominante, méditation. Tâchons, mon cher Théotime, de saisir le caractère de ce qu'on appelle la passion dominante. Ensuite, nous en chercherons les marques et les suites funestes, et nous indiquerons les remèdes. 1. Caractère de la passion dominante. Nous avons tous en nous le germe de toutes les passions, mais en chacun de nous, il y en a une qui domine les autres, qui forme comme le fond de notre être. Dans l'un, c'est une vivacité qui s'irrite de la moindre contradiction. Pour la plus légère opposition, on s'échauffe, on s'aigrit, on s'échappe en termes de mépris, en domination injurieuse. Tel aurait été saint François de Sales s'il eût suivi l'impétuosité de son caractère. Mais la piété qu'il suça comme le lait lui servit à corriger ce penchant d'une nature violente et fougueuse, le rendit dès ses premières années un des plus zélés serviteurs de Marie et le modèle admirable d'un parfait congréganiste. À l'école de cette Vierge pleine de bonté, de douceur, de clémence, il apprit tellement à maîtriser sa colère que dans les circonstances les plus critiques, on ne remarqua jamais en lui le plus léger signe d'impatience, mais toujours une qualité d'âme et de douceur inaltérable. Dans un autre, c'est l'orgueil qui prend mille formes différentes. Tantôt, il se montre ouvertement, il veut toujours s'élever, toujours être distingué des autres. Il ne rêve qu'honneur, qu'emploi éclatant, que succès et triomphe en tout genre. Tantôt, plus timide et plus couvert, il se cache lui-même sous la modestie apparente. Mais ensuite, il apparaît tel qu'il est, ou bien il nourrit dans son cœur des dépits secrets, des ennuis qui le rongent. Qu'on ait l'air de l'oublier, de lui préférer les autres, l'orgueil s'irrite. Qu'on paraisse le louer, l'estimer, l'admirer, il s'enfle d'une manière aussi ridicule qu'elle est digne de compassion. Saint François Xavier aurait été la victime de cette funeste passion si saint Ignace ne lui eût appris moins à la détruire qu'à la tourner vers le Seigneur. Et cet orgueil et cette ambition, s'étant changé en zèle, donna à l'Église l'apôtre des Indes et du Japon. Dans un troisième, c'est un fond d'indolence et de paresse, un état d'engourdissement et de léthargie. On ne sait rien, on n'est capable de rien. Les jours, les semaines, les mois, peut-être les années, se passent, sans qu'on soit avancé d'un pas. Toujours projetant et n'exécutant jamais, commençant toujours sans jamais rien finir. Combien d'autres passions dominantes dont le détail nous mènerait trop loin? Un flux de paroles qui ne sait point s'arrêter, une malignité qui déchire sans cesse le prochain, un commencement de sordide avarice, une vanité puérile et ridicule pour les avantages les plus faibles. Un penchant au mensonge ou à la duplicité. On peut réduire tout cela à deux passions, mères des autres. L'orgueil, qui rapporte tout à soi, et la sensualité ou la paresse, qui ne veut se gêner en rien. De ces deux passions, soyez-en sûr, mon cher Théotime, il y en a une qui domine en nous, et peut-être que l'autre n'est pas sans y exercer quelque emprise. Cette passion dominante, nous pouvons la regarder comme notre plus mortel ennemi. Oh, qu'il nous importe de la combattre! Mais pour cela, il faut la connaître. Demandez cette précieuse connaissance par vos prières, dans une retraite, dans une confession générale, durant ce mois de salut et de bénédiction. Implorez les lumières de l'Esprit-Saint, le secours de Marie. Dites-vous à vous-même, avec saint Jean Chrysostome, « Je sais, à n'en point douter, que mon ennemi le plus rusé, le plus dangereux, le plus cruel, est caché dans mon cœur. Oh, si je pouvais le connaître! Eh bien, voici quelques marques pour vous aider à découvrir votre défaut dominant. » 2. Marques et suites funestes de la passion dominante. C'est 1. Celle qui est la source la plus ordinaire de tous les autres péchés. La connaissez-vous? Parlons plus clairement encore. 2. Celle qui trouble davantage le repos de votre âme et vous cause le plus de remords. 3. Celle qui est la matière la plus ordinaire de vos confessions. Si ces marques ne suffisent pas, j'en ajoute une quatrième. Faites-y attention. C'est le défaut le plus cher à votre cœur. Qu'on attaque les autres, vous n'y êtes pas trop sensible, mais touchez à celui-ci, à ce favori, à ce bien-aimé, et vous touchez à la prunelle de l'œil. Voilà la passion dominante, voilà l'ennemi. Et mon cher Théotime, l'ennemi le plus digne de votre exécration. Après l'avoir connu, il faut le détester, et pour le détester, une seule réflexion suffit. Pensez-y bien, mon cher Théotime. Si vous avez l'affreux malheur de vous perdre, cette pensée me fait frémir, et vous sans doute avec moi. Hélas, oui, si vous avez l'affreux malheur de vous perdre, c'est votre défaut dominant qui vous damnera. Il a damné tous ceux qui sont maintenant en enfer, et il damnera tous ceux qui y descendront. En effet, c'est l'endroit faible de votre âme. Il y a là une brèche à la muraille. Et si la place est prise un jour, c'est par là que le démon s'en rendra maître. Comme aussi si vous fortifiez cet endroit, si vous y faites bonne garde, vous tiendrez bon et vous triompherez, je vous le garantis. Si vous terrassez ce Goliath, tous les autres Philistins seront vaincus et prendront la fuite. Triste état que celui d'une âme qui laisse régner la passion dominante. Les péchés y entrent de toutes parts, et elle les multiplie tous les jours. De là, l'affaiblissement progressif des forces de l'âme, la tyrannie de l'habitude, les ténèbres qui vont tous les jours croissant. Souvent, hélas, pour dernier résultat, l'impénitence et la réprobation. Heureux et sages ceux qui prennent le parti de combattre cet ennemi funeste. Courage, mon cher Théotime, quand je vous supposerai esclave depuis longtemps de la passion dominante la plus impérieuse, la plus tyrannique, songez que les grâces sont plus abondantes que les difficultés, les secours plus puissants que les ennemis. 3. Remède à la passion dominante. Je ne ferai que vous les indiquer. 1er. Une généreuse résolution. Les demi-vertus, les demi-justices, les demi-volontés peuvent bien arrêter pour quelque temps la fougue des passions, mais jamais elles ne procureront une véritable victoire. Et bientôt, la passion dominante, prenant le dessus, exercera d'une manière tyrannique son cruel empire sur nos âmes. Second, la sainte habitude de l'examen, et surtout de l'examen particulier. Ce retour quotidien sur soi-même dispose l'homme à se précautionner sur les fautes qu'il a commises le jour précédent. Cette obligation, qu'il s'est imposée volontairement de se rendre compte de toutes ses pensées, le rend plus vigilant et plus attentif sur le mal qu'il doit éviter et sur le bien qu'il doit pratiquer. Ce retour salutaire acquérera, mon cher Théotime, une nouvelle efficacité. Si à l'exemple de ce roi de Syrie dont parle l'Écriture sainte, qui près de livrer bataille au roi d'Israël ordonna à tous ses officiers de ne combattre contre qui que ce soit, soit soldat, soit capitaine, mais de diriger tous les traits contre le seul Achab. Si, dis-je à son exemple, vous ordonnez à toutes les puissances de votre âme de réunir toutes leurs forces contre le vice qui est en vous, comme le roi de tous les autres, enfin, mon cher Théotime, à cette ferme détermination, à cet usage de l'examen, ajoutez une confiance filiale en Marie et vous serez vainqueur. Exemple. Le plus frappant de tous est celui du perfide Judas, que sa passion dominante porta à vendre son maître et son Dieu. En voilà un autre qui appartient au premier siècle de l'Église. Il vous montrera jusqu'à quel point une passion dominante aveugle, captive et endurcit les âmes, et en même temps que le pouvoir de Marie égale sa bonté. Le fameux Théophile, si connu par sa chute et par sa pénitence, était économe de l'église d'Adana, et d'une vertu si reconnue et si révérée qu'on avait voulu l'élever à l'épiscopat. Mais on ne put vaincre le refus constant qu'il fit de cette dignité. Quelque irréprochable que fût sa vie, il ne laissa pas de trouver des gens mal intentionnés qui l'accusèrent d'avoir dilapidé les revenus de l'église dont il avait l'intendance. Et les choses allèrent si loin que son évêque le déposa de sa charge. Cet affront lui fut très sensible, et au lieu d'étouffer les premiers sentiments de vengeance qui s'élevèrent dans son âme, il ouvrit son cœur à cette terrible passion. Ne trouvant point de résistance, elle s'accrut avec rapidité, et bientôt elle fit d'un saint prêtre un malheureux apostat. Théophile, outré de dépit, résolut de se venger, à quelque prix que ce fût, et pour satisfaire la passion qui le dominait, il eut recours à l'enfer. Un juif impie, auquel il s'adressa, lui promit de le satisfaire, à condition qu'il ferait tout ce qui lui serait ordonné. Théophile, aveuglé par son ressentiment, consentit à tout. Le ministre du démon le mène durant la nuit sur une place publique après l'avoir averti de ne pas s'épouvanter de ce qu'il verrait et surtout de ne pas faire le signe de la croix. Quelque fermeté qu'eût fait paraître Théophile, il fut saisi de frayeur à la vue du spectacle qui se présenta à ses yeux. C'était une assemblée confuse au milieu de laquelle paraissait le démon assis sur un trône. Le juif fait approcher Théophile et implore pour lui le secours du prince des ténèbres. Le démon le promet, mais à condition qu'il renoncera à Jésus et à Marie. Cette proposition fit d'abord frémir Théophile, mais l'amour de la vengeance l'emporte sur toute autre considération. Il donne par écrit cette renonciation signée de sa main. Cependant, la Providence disposa tellement les choses que dès le lendemain, l'évêque, instruit de la fausseté des accusations dont on avait noirci Théophile à ses yeux, le fait venir à l'église, lui fait réparation devant tout le monde et le rétablit dans sa charge. Si cet acte solennel le consola de l'affront qu'il avait essuyé, d'un autre côté, son ressentiment s'étant adouci, il commença à voir l'énormité de son apostasie et à éprouver les remords de sa conscience. Ses efforts pour les étouffer ne firent que les rendre plus terribles et plus déchirants. Bourlé intérieurement jour et nuit, et frappé de la terreur des jugements de Dieu, il versait des torrents de larmes, il se roulait par terre, affligeait son corps par des veilles, des jeûnes et d'autres pénitences, sans néanmoins se trouver consolé par un seul rayon d'espérance. Ce qui menait le comble à son désespoir, c'est qu'il avait renoncé à sa sainte mère, elle qui eût été son unique ressource pour obtenir le pardon de son crime. De sorte qu'il voyait toutes les avenues de la grâce fermées et condamnées pour lui. Cependant, la pensée des miséricordes de Marie lui revint et l'enhardit un peu. Ne voyant que sa main secourable qui pût le tirer de ce profond abîme, il va dans une chapelle qui lui était dédiée. Il se prosterne devant son image et, tout baigné de larmes, le visage contre terre, il lui adresse ces paroles. Vierge sainte, l'avocate des hommes et le refuge des pécheurs, je confesse à la face du ciel et de la terre que je suis indigne de la grâce que je vous demande, à cause du crime que j'ai commis contre votre fils et contre vous. Mais encouragée par vos bontés, je viens me jeter à vos pieds, et je vous conjure, par cette miséricorde dont les plus grands pécheurs ont ressenti les effets, d'avoir compassion d'un malheureux qui s'est laissé tromper par le démon. Vous seul pouvez apaiser votre fils, justement irrité contre moi. À qui aurais-je recours si vous m'abandonnez? Vous n'avez jamais rejeté les vœux des pécheurs pénitents. Serais-je le premier qui n'aura pu vous fléchir par ses larmes? Présentez à votre fils la résolution sincère où je suis, de vivre désormais et de mourir fidèle à son service. Après 40 jours de prière, de larmes, d'austérité, l'auguste Mère de Dieu lui apparaît. Et après lui avoir représenté la grandeur de sa faute, elle lui fait prononcer une nouvelle profession de foi, notamment sur la divinité de son fils et sur sa qualité de juge des vivants et des morts. Théophile, l'ayant faite avec de grands sentiments de douleur, elle lui promit d'intercéder pour lui et disparut. Lui, de son côté, ne relâcha rien de ses prières et de ses pénitences, prosterné devant l'image de celle dont il attendait son salut. Son attente ne fut pas vaine, cette mère de bonté lui apparut une seconde fois et lui dit avec un visage doux et riant : « Théophile, consolez-vous, j'ai présenté à Dieu vos larmes et vos prières, et il les a reçues favorablement. Souvenez-vous seulement de conserver jusqu'à la mort la fidélité que vous avez jurée à mon fils et à moi. Cette grâce, si longtemps attendue, inonda Théophile de consolation. Cependant, un souvenir le tourmentait encore, c'était l'acte de renonciation resté entre les mains de son ennemi. Il conjura la Sainte Vierge de mettre le comble à ses bontés, en retirant cette funeste cédule. Et, 3 jours après, à son réveil, il la trouva sur sa poitrine. On ne peut exprimer quelle fut sa joie. Le jour suivant, qui était un dimanche, lorsque l'évêque se fut rendu à l'église, Théophile vint se jeter à ses pieds, lui raconta ce qui lui était arrivé, lui remit l'obligation qu'il avait passée avec le démon, et le pria de la faire lire devant le peuple assemblé. Le bon prélat, tout attendri, le relève et l'embrasse avec tendresse, donnant 1000 bénédictions au Sauveur et à sa Sainte Mère. Il fait ensuite brûler cet écrit devant toute l'assemblée, qui criait avec des transports de joie et de compassion : « Seigneur, ayez pitié de lui !» L'évêque, ayant fait faire silence, achève la messe et donne la communion à cet illustre pénitent. Celui-ci, ayant reçu le corps du Sauveur, se retira dans la chapelle de la Sainte Vierge, où il avait obtenu sa grâce, et après y être resté quelque temps en prière, il sentit les premières atteintes d'une maladie qui lui annonça que Dieu l'appelait à lui. En effet, peu de jours après, ayant mis ordre à ses affaires domestiques, il dit adieu aux fidèles assemblées, publiant jusqu'au dernier soupir les louanges de Dieu et de l'Auguste Marie. Pratique. Demandez à votre confesseur qu'il vous aide à connaître et vous indique les moyens de combattre votre passion dominante. Et regardez comme un jour malheureux celui où vous n'aurez rien fait contre elle. Si vous êtes fidèle à ce point, je réponds de votre salut. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.